Bonjour, je suis Mani Badri, donc je suis à Chambéry et Vasika m'a proposé de contribuer à cette retraite en ville en partageant avec vous mon expérience de la pratique de l'enseignement autour des vents du monde, ce que je vais faire maintenant. J'aimerais commencer par remercier ceux qui ont choisi ce thème en fait, et puis vous remercier aussi vous qui avez décidé de faire la retraite en ville, parce que ben voilà, ça m'a donné l'occasion d'explorer et de pratiquer cet enseignement beaucoup plus en profondeur. Je vais vous partager mon expérience à deux niveaux. D'abord, je vais vous partager quelques réflexions autour de cet enseignement et qu'il m'inspire dans ma façon de le comprendre. Et puis ensuite je vous partagerai quelques situations personnelles récentes dans lesquelles j'ai eu l'occasion d'utiliser cet enseignement pour essayer de mieux vivre ces situations. Donc dans un premier temps, voilà ce que m'inspire cet enseignement, c'est d'abord que les vents du monde soufflent tout le temps. Et donc c'est un enseignement qui me parle de la réalité des choses telles qu'elles sont. Je dirais qu'ils sont juste une façon de décrire la réalité. C'est un petit peu comme les caractéristiques de l'existence, les trois lakshanas. Voilà, c'est des aspects qui sont presque tout en présent dans notre expérience. Apprendre à les identifier et à voir quand et comment je suis emportée par eux et comment en sortir, c'est pour moi un chemin de liberté qui me permet de reprendre du pouvoir sur ma vie finalement et de moins me laisser balloter. C'est un enseignement que j'apprécie parce qu'on peut le pratiquer à plusieurs niveaux. En fait, tous ces vents sont des expressions de la dualité de notre esprit et des deux principaux poisons qui sont au cœur de la roue de la vie, la haine et l'avidité, et avec par-dessus l'illusion qu'on va pouvoir les contrôler. Donc finalement, chaque situation dans laquelle je suis en train de repousser les choses et d'en vouloir plus, les vents du monde sont en train de souffler. Et ça peut déjà être un premier niveau de pratique, de prise de conscience, de repérer ça. Par exemple, pour des petites choses, quand je me dis « Ah, c'est chouette ce beau temps, j'aimerais bien que ça continue. » Voilà, j'en voudrais juste plus, j'ai l'espoir du plaisir. Ou quand je me dis j'en peux plus de ces gosses, voilà, je suis en train de repousser la situation, j'ai envie que ça s'arrête. Ou quand je me dis je déteste ces systèmes de recrutement où il faut mettre son CV mis en ligne, en fait je repousse la situation. Tout simplement parce que j'ai un peu peur de ce que vont penser les gens qui vont regarder mon CV sur ce site en ligne. Voilà, donc c'est plein de petits exemples où finalement dans les choses de la vie que je fais, je peux voir déjà est-ce que je suis dans la haine ou dans l'avidité. Et puis c'est ça peut être une façon de pratiquer à un autre niveau. Quand je vois que c'est difficile pour moi, je peux essayer de créer de l'espace autour de l'avidité, de l'aversion, et je peux essayer d'approfondir en identifiant mais qu'est-ce que j'essaye de contrôler et comment je peux faire différemment, quel est le vent du monde qui est à l'œuvre, de quoi j'ai peur ou qu'est-ce que j'espère, est-ce qu'il y a un premier pas que je peux faire dans cette direction, même si j'ai peut-être pas tout de suite me sentir complètement libre et dans l'équanimité par rapport à cette question. Donc voilà, dans ma pratique, comment je fais pour les identifier. Je me suis rendu compte c'est que finalement chaque fois que je suis au milieu d'une situation duel où il y a du positif ou du négatif, du bien ou du mal, je suis au milieu des vents du monde. Chaque fois aussi que j'ai envie de contrôler la situation, de faire comme je voudrais que ça soit, il y a un vent du monde qui est en œuvre. Ou alors quand il y a une frustration, que je me sens bloquée ou coincée, quand je sens une résistance. Ce qui m'aide à travailler avec, je crois que la première chose, c'est, avant même de les avoir identifiés, c'est de parler à un ami. Parce qu'il va m'apporter de l'objectivité dans la situation. Déjà, peut-être, il va m'aider à identifier que c'est un vent du monde qui souffle à cet endroit-là. Et puis aussi, il va m'aider à apporter de l'objectivité dans la situation. Ce qui m'aide aussi, c'est de cultiver un sens d'espace autour de la situation, en essayant de détacher, de me détacher en fait de la situation elle-même. Et puis aussi un aspect qui m'aide aussi à travailler avec, c'est de regarder les conséquences par rapport à la perte et au gain, par exemple. Est-ce que j'agis ça par peur des conséquences? Ou est-ce que finalement c'est vraiment de la perte? Ça va vraiment, si j'agis sur la base de la peur de la perte, c'est vraiment une perte qu'il va y avoir dans cette situation. Ça me fait prendre conscience, par exemple, que si j'agis sur la base de la peur, j'agis pas avec un état d'esprit positif, et donc ça aura forcément pas des conséquences positives. Voilà, puis la troisième et dernière chose que j'aimerais souligner sur cet enseignement, c'est que c'est un enseignement qui nous invite, ou en tout cas qui m'invite moi particulièrement, à prendre responsabilité pour ce que je vis. Une chose qui m'a vraiment beaucoup aidée par rapport à ça, c'est une phrase dans le livre de Vajragupta, où il dit, bah, si au lieu de contrôler la situation, vous essayez de voir ce que vous pouvez apporter de positif dans la situation. Et regarder les choses de cette façon-là me redonne vraiment du pouvoir dans ma vie, même sur les petites choses. Voilà, sur les petites choses qui m'énervent, mais finalement, qu'est-ce que je peux changer par rapport à la situation? Et en réfléchissant à ça et en essayant d'appliquer ça dans mon quotidien, je me suis rendu compte sur quelque chose de très très bénin, par exemple. Voilà, je suis très énervée, je déteste quand la nappe de la table de la cuisine n'a pas été secouée. Voilà, parce que je trouve ça désagréable de manger sur une nappe où il y a des miettes partout. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Je peux m'énerver, je peux critiquer, je peux crier sur les autres personnes qui vivent avec moi en disant quand même vous pourriez secouer la nappe. Et puis je peux aussi dire ben voilà, moi j'apprécie que ce soit fait et donc je choisis de le faire. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Un autre qui m'est arrivé récemment, je prends souvent le train et ce qui m'est arrivé, ça a été de me rendre compte que. Non, ce qui m'est arrivé, ça a été de me retrouver dans un wagon où il y avait pratiquement que des collégiens, où c'était peut-être des enfants de l'école primaire, enfin c'était des adolescents de 10-11 ans, et qui donc évidemment étaient brillants parce qu'ils avaient envie de jouer, parce qu'ils avaient envie de papoter entre eux, parce qu'ils avaient envie de rigoler, parce qu'ils partaient en voyage de classe. Et donc je me suis sentie, ben voilà, coincée dans cette situation, à ronchonner, à râler, parce que justement j'avais décidé de lire le livre de Vajragupta et de réfléchir sur les vents du monde tranquillement pendant mon voyage en train. Je me suis rendu compte finalement que ben voilà, ça me contrariait, mais que j'avais aussi d'autres façons de regarder la situation que je pouvais supporter sans rien dire, et donc en général accumuler du ressentiment. Je pouvais aussi aller parler aux adultes encadrant les enfants, en leur demandant d'expliquer aux enfants que ça serait bien qu'ils fassent moins de bruit. Je pouvais aussi choisir de changer de wagon. Et ma foi, je suis pas très fière de dire que finalement j'ai passé presque 3 heures de trajet à supporter ça, tout en lisant le livre de Vajragupta, jusqu'au moment où je me suis dit, mais là, c'est vraiment, t'es dans l'œil du cyclone, t'es en train de râler parce que la situation ne te convient pas, mais finalement, tu pourrais aussi choisir de changer de wagon. Voilà un exemple de petites choses sur lesquelles finalement, ben, au lieu de râler, je peux aussi prendre responsabilité sur ce que je vis et regarder ce que je peux moi changer dans la situation. Un autre aspect qui me parle de la responsabilité, quand je réfléchissais sur les vents du monde, c'est que je me suis rendu compte en fait qu'il ne s'agissait pas de les subir. Voilà, on parle de ces vents et on se dit voilà, ils sont en action dans nos vies, donc voilà, pff, tout à coup. Le vent du blâme ou de la perte balaye ma vie. Mais finalement, je me suis rendu compte que si je regarde bien, c'est pas juste quelque chose d'extérieur à moi qui souffle sur moi. Si je suis frustrée, comme dans l'exemple précédent, ou contrariée parce que les gamins font du bruit et que je commence bah justement à blâmer les instits parce qu'ils font pas leur boulot, les gamins parce qu'ils sont mal éduqués, c'est moi qui fais souffler les vents du monde. Donc je suis aussi partie prenante, je suis aussi celle qui peut les faire souffler. Et ça, c'était une grosse prise de conscience pour moi, de me dire, ben voilà, je peux regarder à quel moment je reçois quelque chose qui est de l'ordre du vent du monde, qui est de l'ordre de la dualité, mais je peux regarder aussi à quel moment moi je fais fonctionner mon esprit de cette façon-là, et donc du coup je fais souffler ce vent-là sur quelqu'un d'autre autour de moi. Voilà un petit peu les réflexions qui m'ont inspiré cet enseignement. J'aimerais vous partager maintenant deux exemples concrets de ma vie, de situations dans lesquelles j'ai travaillé un petit peu avec ça. Donc voilà, ce qui est bien avec les vents du monde, comme je disais au début, c'est qu'ils sont toujours en train de souffler. Donc quel que soit le moment de la vie où vous décidez de travailler avec, vous allez toujours les trouver au rendez-vous. Et c'est ce qui s'est passé pour moi pendant ces 15 derniers jours, où je les ai particulièrement explorés pour préparer la retraite en ville. Donc ça a été d'abord à l'occasion d'une difficulté de communication avec mon père qui, presque du jour au lendemain, s'est mis à refuser de vouloir me parler, qui était pour lui une expression de refuser mon nom d'ordination. Et je pataugeais avec cette question depuis un moment quand je me suis dit « Mais tiens, si je regardais quel vent du monde est à l'œuvre ici ?» Et ce qui m'est venu en explorant cette situation, c'est une forme de vent du monde qui est une forme de celui qu'on appelle la gloire et la diffamation. Que j'appellerais plutôt l'estime et le mépris, ou la reconnaissance et l'ingratitude. Il me semble que c'est un vent qui souffle beaucoup pour moi dans les relations familiales, cette oscillation entre le désir d'être moi-même et différente au milieu de mes proches, et en même temps le désir d'être vu et apprécié pour ce que je suis par ceux de ma famille. Jusqu'à présent je me disais ouais, le vent de la gloire et de la diffamation, c'est un truc de star, du showbiz, de personnalité publique. Mais en regardant de plus près comment je pouvais répondre créativement à cette situation face à mon père, j'ai identifié qu'effectivement j'aimerais bien avoir de la reconnaissance de sa part pour ce que je vis et pour les choix de vie que j'ai fait. Et du coup, en poussant ma réflexion et ma prise de conscience, je me suis rendu compte, enfin j'ai pris conscience que la valeur de mon engagement en tant que bouddhiste et en tant que membre de l'ordre ne dépendait pas de l'estime de mon père pour cette démarche-là, mais du sens profond que ça avait pour moi. Donc voilà, c'est en développant mon individualité et la clarté de mes propres choix que je peux être plus ancrée et plus solide dans mon engagement sans dépendre de la réaction ou de la non-reconnaissance de mon père pour ce que je fais. Sur cette base-là, j'ai réussi à avoir un échange avec lui, à lui proposer, à revenir vers lui à plusieurs reprises, avec ouverture, à lui proposer une discussion qu'il a acceptée, et à discuter avec lui d'une façon plus ouverte et moins réactive. C'est pas encore gagné, mais ça m'a permis vraiment d'avoir plus de stabilité dans mon échange avec lui. Un autre exemple que j'ai vécu récemment, qui vraiment m'a fait explorer un vent du monde en particulier, c'est que j'ai reçu une lettre de critique de mon attitude professionnelle en tant qu'animatrice de communication non violente. Par une personne qui donc m'écrivait pour me dire combien il me trouvait injuste, malhonnête, manipulatrice, pour ne citer que quelques adjectifs qu'il a utilisés, et qui non seulement m'envoyait cette lettre à moi-même, mais qui en plus l'envoyait à des responsables de l'association de la CNV en France. Donc voilà, c'est une chose qui m'a bien sûr frappée, je vais dire, et bien interpellée, qui m'a pas laissé indemne. Et je crois que la première chose qui m'a touchée quand j'ai reçu cette lettre, c'était pas tant ce qu'il disait sur moi, c'est qu'il l'avait envoyé aussi à d'autres personnes qui ont des responsabilités en fait dans l'association de la CNV, et du coup je me sentais un peu redevable vis-à-vis de ces personnes. Je me disais, il va falloir que je justifie ce que j'ai fait. Donc ma première réaction a été surtout une réaction de panique, d'inquiétude, en me disant « mais que vont penser les autres ?» Une inquiétude tellement grande que juste avant de me noyer dedans, de me retrouver dans l'œil du cyclone des vents du monde, j'ai appelé une amie. Ça c'est vraiment une expérience que j'ai fait en pratiquant avec ces vents du monde. Appeler quelqu'un d'extérieur à la situation est vraiment un moyen d'essayer de sortir de la subjectivité dans laquelle on peut être prise. Jusque-là, j'avais pas encore identifié que les vents du monde étaient à l'œuvre. Je pense que j'étais trop paniquée par la situation et trop secouée par ce que je recevais. Mais ça m'a déjà fait réfléchir sur les conséquences de certaines actions que j'aurais pu poser avant. Je me suis dit, voilà, s'il écrit ça, c'est que j'ai dit ou fait des choses qui ont été difficiles à vivre pour lui. Et puis ce n'est que, en fait, le soir même du jour où j'ai reçu cette lettre, j'ai discuté avec une amie membre de l'ordre qui me dit, on dirait que les vents du monde sont à l'œuvre. Et du coup, je me suis dit, ok, comment je peux regarder cette situation au travers de cette grille de lecture de la réalité? Et comment je peux identifier lequel est en train de souffler? J'hésitais un peu, est-ce que c'est une question de louange ou de blâme? Ou est-ce que c'est une question de, voilà, de gloire ou diffamation? Et j'aurais plutôt tendance à penser, en tout cas pour moi, dans cette situation, c'est plutôt cette question effectivement de gloire ou diffamation, parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient impliquées, et que je voyais bien que pour sortir de cette situation et essayer de la rencontrer de la façon la plus positive et la plus habile possible, c'était de développer plus d'individualité. Alors comment j'ai travaillé avec cette situation? Ben, j'ai regardé en fait sur quoi était basé mon sens de moi-même et voilà en quoi je crois réellement et quels sont les actes que j'ai posés qui sont en lien avec ça. J'ai aussi pris le temps de re-regarder finalement les actions que j'ai posées et que cette personne critique ou les choses que j'ai dites en prenant soin vraiment de revisiter mes intentions derrière ces actions. Et en acceptant aussi de reconnaître si certaines avaient été malhabiles. Et en l'occurrence, je pense que dans cette situation, j'ai certainement réagi avec cette personne par moment d'une façon qui n'était pas tout à fait appropriée, où il n'y avait pas assez de délicatesse par rapport à certaines souffrances que peut avoir cette personne. Du coup, ça m'a aussi permis de relire sa lettre en n'ayant pas envie de le blâmer pour avoir fait ça, mais en essayant de comprendre. Bah, ce qui se passait pour lui, pourquoi il écrivait ça. Donc j'ai essayé de relire sa lettre en écoutant derrière les critiques ce qu'il disait en réalité de ce que lui avait vécu, pour être capable d'accueillir cela sans dénigrer pour autant ce que j'avais fait et avoir de la clarté sur mes intentions. Voilà ce qui m'a conduit à accepter de faire une médiation, c'est-à-dire d'avoir une rencontre avec lui, avec un médiateur qui nous aidera à poser l'un et l'autre ce qu'on a vécu dans cette situation, à accueillir ce que l'autre a vécu et aussi à être entendu dans ce que nous, chacun, on a vécu. Je suis sortie grandie de cette expérience, en particulier, voilà, dans ma confiance en moi. Parce que pour moi, ça faisait aucun doute que ce que j'avais fait, je l'avais fait avec des intentions positives, même si parfois j'avais peut-être pas été suffisamment attentive à la sensibilité de la personne. Et le fait d'être capable d'accueillir ça et de l'exprimer à l'autre est aussi une façon de réparer. Mais aussi, je me suis sentie grandie en fait dans cette expérience parce que ça m'a permis d'augmenter ma capacité à accueillir l'autre là où il est, aussi avec ses critiques, en apprenant à entendre au-delà des mots qu'il me dit, au-delà des mots qu'il utilise, à entendre ce qu'il me dit de lui-même. Voilà, c'était mon expérience de la pratique autour des vents du monde. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aidera dans votre pratique. Je vous souhaite une bonne continuation pour la suite de votre retraite en ville.